un podcast France Culture.
Selon Karl Marx, il est le grand penseur qui a analysé le premier la forme-valeur. Aristote est sans nul doute le philosophe de l'Antiquité qui a le plus influencé les économistes. Le stagirite, comme il est surnommé, affirme que la vertu ne suffit pas pour accéder au bonheur, il faut aussi des conditions matérielles. Alors qu'est-ce qu'une bonne économie selon Aristote? Et comment sa pensée continue-t-elle de nous inspirer? Voilà quelques-unes des questions qui vont nous occuper jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour explorer la pensée économique d'Aristote, nous accueillons en studio Charlotte Murgier, maîtresse de conférences en philosophie ancienne à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'éthique aristotélicienne. Également avec nous, en duplex de Lille, Patrick Mardella, professeur de sciences économiques à Sciences Po Lille et spécialiste de philosophie économique. Une émission préparée avec Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade, Diane Devancé, Laurence Genepin et Margot Bolotny. Bonjour Charlotte Murgier, Patrick Mardella.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour saisir la pensée économique d'Aristote, il faut se plonger d'abord dans la Grèce du 4e siècle avant Jésus-Christ. À quoi ressemble la démocratie athénienne lorsque le philosophe voit le jour en moins 384, Charlotte Murgier?
Cette démocratie athénienne, il faut ne pas oublier qu'elle ne ressemble pas trop à notre démocratie moderne, puisque finalement elle exclut de la participation politique un grand nombre d'êtres humains qui pourtant font partie de la cité, donc les femmes, les esclaves, les étrangers, les métèques, donc le corps politique au sens strict est beaucoup plus restreint que le nôtre.
Les métèques, ce sont les citoyens, les étrangers non barbares, hein, c'est ça, Charlotte Murgier.
Oui, et qui résident de façon permanente dans la cité. Voilà.
Et donc finalement, c'est seulement 15% de la population athénienne qui peut participer à la vie politique.
Oui, tout à fait. Donc c'est une frange très très restreinte et en dépit de la grande avancée qu'a représenté l'émergence de la démocratie athénienne. Et pour Aristote aussi, ce qu'on peut mettre au crédit de sa pensée politique, la défense du principe démocratique contre ses critiques. Voilà, il ne faut pas oublier cette restriction fondamentale d'une grosse partie de la population.
Lorsqu'Aristote naît, la démocratie athénienne existe depuis à peu près 3 siècles, Charlotte Murgier?
Oui, elle existe. Hein. Il ne faut pas non plus oublier que ce n'est pas sans trouble. Donc, Athènes n'est pas une cité tout le temps qui vit sous le régime démocratique. De temps en temps, il y a des séditions, des changements de. Il y a eu par exemple la courte instauration de la tyrannie des 30. Hein. Et puis après, le parti démocratique est revenu au pouvoir. Et puis par ailleurs, au moment où Aristote naît, cette démocratie athénienne, elle est aussi menacée par un facteur extérieur. Hein. C'est plus seulement son instabilité interne, à savoir l'Empire macédonien qui menace les cités grecques et leur indépendance.
Alors on va en parler parce qu'Aristote va jouer un rôle en quelque sorte dans la fin de l'indépendance des cités grecques. Peut-être expliquer, Charlotte Murgier, que cette démocratie athénienne, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer sur cette dimension très politique, cette démocratie athénienne, elle se fonde sur la figure du propriétaire terrien qui est une figure essentielle dans l'économie de la cité.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir participer aux fonctions politiques, c'est-à-dire la délibération aux assemblées et puis le fait d'être juge au tribunal, il faut avoir le temps. Athènes va instituer une sorte de salaire permettant aux citoyens, même pas très riches, de pouvoir participer aux tâches politiques, il est indispensable finalement d'avoir du temps et donc de posséder déjà les moyens de sa subsistance, hein, c'est-à-dire que si on est asservi, si on est salarié, si on est asservi à la nécessité de pourvoir à sa subsistance quotidiennement, on ne va pas pouvoir aller à l'Assemblée et participer à ses fonctions politiques qui sont pour Aristote l'accomplissement de l'essence de l'être humain.
Et donc Aristote vient de Macédoine, il est donc un métèque, un étranger non barbare. Il entre à l'Académie, l'école philosophique de Platon à Athènes à l'âge de 17 ans. Il va être pendant 20 ans l'élève de Platon, Charlotte Murgier.
Tout à fait, et ça a une extrême importance pour sa pensée, puisque donc à la fois il va être critique de Platon, mais en même temps il connaît extrêmement bien cette pensée. Donc sa critique, contrairement à l'impression qu'on peut avoir de temps en temps, est toujours fine et elle se fait vraiment de l'intérieur. Donc on va sans doute en parler, mais il va effectivement être critique par rapport à Platon sur les questions de l'économie, de l'importance de la propriété privée, etc. Mais tout ça se fonde sur une extrême familiarité de la pensée platonicienne. Après, il ne va pas être le successeur de Platon à l'Académie, c'est quelqu'un d'autre qui va succéder à Platon. Et donc, à ce moment-là, peut-être pour ça, peut-être pour d'autres raisons plus politiques, il quitte Athènes à la mort de Platon pour aller sur la côte égéenne où il va mener ses recherches à Assos, Lesbos.
Et alors, en quoi le fait que c'est un étranger, donc il n'a pas pleinement accès à la citoyenneté, en quoi est-ce que ça a une influence, Patrick Mardella, sur sa philosophie ?
Alors, je voulais réagir effectivement sur ce qui vient d'être dit et qui me semble très très juste, et en particulier sur l'emploi du terme métèque, et rappeler que étymologiquement, métèque renvoie à la notion d'oikos, qu'on retrouve à la racine d'économie. Le métèque, c'est celui qui a, d'une certaine manière, changé d'oikos, l'oikos désignant et la maison et le lieu de vie. Donc, être métèque, c'est être étranger au sens de quelqu'un qui a changé de lieu de vie et qui s'implante dans une autre cité que celle où il a vu le jour.
Et sur cette question de l'influence sur sa pensée, peut-être Charlotte Murgier, est-ce que on peut remarquer que sa pensée est marquée par ce statut d'étranger ?
Alors, effectivement, je ne sais pas si elle est marquée, en tout cas, peut-être à contrario, puisque c'est quand même, il va théoriser la cité, le fait d'être citoyen. Il va aussi avoir une approche assez restrictive de ceux qui peuvent être citoyens, et il va exclure de la cité excellente, de la citoyenneté, les marchands, les artisans, tous ceux qui se consacrent aux fonctions, on va dire, productives, au sens large. Donc de ce point de vue-là, voilà, un petit peu par contraste, peut-être il y a une sorte de magnification de la citoyenneté grecque, et
qui lui paraît peut-être d'autant plus désirable qu'il ne la possède pas.
C'est possible, hein. Et par ailleurs, on peut aussi penser que s'il n'a pas succédé à Platon à la tête de l'Académie, ça pouvait être aussi pour des raisons politiques, à savoir que justement c'était un métèque et qu'il ne pouvait pas posséder la terre. Or, l'Académie, c'est un terrain, là où il y a l'école.
Avant d'en venir à sa pensée, encore quelques mots sur sa vie avec vous, Charlotte Murgier. Comment est-ce qu'il en vient à être nommé précepteur du jeune Alexandre, fils du roi macédonien Philippe II et futur Alexandre le Grand ?
Alors, comment il en vient précisément, je ne sais pas trop. En tout cas, son père était déjà médecin à la cour du père d'Alexandre. Donc, sa famille avait été déjà familière de cette de la famille
une
royale.
Certaine dynastie, voilà. De conseillers du prince.
Et par ailleurs, bon, on n'a pas énormément de détails sur ce préceptorat. Il dure pas très longtemps et d'après ce qu'on sait, il se passe pas très bien. Il semble que le caractère d'Alexandre était assez peu réceptif aux leçons d'Aristote. Finalement, c'est quelque chose de très important dans l'histoire, parce que c'est très significatif que ce grand conquérant et ce grand philosophe se soient connus de près.
Mais voilà. Peut-être que l'influence d'Aristote sur Alexandre a été mineure. En revanche, l'influence d'Alexandre sur Aristote est importante, Charlotte Murgier, puisque Alexandre le Grand va mettre fin à l'indépendance des cités grecques. C'est un changement de modèle qui intervient à ce moment-là, et ça influence la pensée politique d'Aristote, dont découle sa pensée économique.
Oui, c'est-à-dire qu'on a, tout à fait, on a souvent pensé finalement que Aristote faisait la théorie de quelque chose qui était en train de disparaître. Alors, jusqu'à quel point il en avait conscience, je ne sais pas, mais effectivement, il construit ce modèle de la cité indépendante, alors que justement, c'est ce qui est mis à mal. Et de ce point de vue-là, effectivement, la coïncidence historique est très signifiante, à mon avis.
Tu veux pas descendre un peu de ton piédestal et venir discuter avec nous ?
France Culture.
Tu sais, nous, tes copains.
Oui, Aristote, sors de ta caverne.
Non, c'est Platon, l'allégorie de la caverne.
Ouais.
Aristote y était aussi, c'est juste qu'il n'en est pas sorti.
Ça suppose, c'est la même époque.
Mais tous les philosophes ne sont-ils pas de la même époque ?
Ça, c'est le sujet de notre bac de philo.
Entendez-vous l'écho ?
C'est pour ça que j'ai eu 4.
Stéphane de Rocchini.
Voilà, un clin d'œil avec cet extrait du film Le Prénom. Pour parler de ce qui rassemble Aristote et Platon et de ce qui les oppose, puisqu'on a vu hier qu'à l'époque de Platon, l'économie était considérée comme une activité domestique et privée. C'est également le sens que lui donne Aristote, Patrick Mardella ?
Oui, oui. L'économie peut être définie chez Aristote à partir tout simplement des deux termes qui sont rapprochés d'oikos, qui renvoient à la fois à la famille, à la maison, mais surtout au lieu de vie, et le nomos qui renvoie à l'idée de règles ou de conventions. Et on peut donc dire que l'économie chez Aristote, c'est un rassemblement de personnes qui forment une unité familiale autour d'un principe qui les unit ou d'une règle de vie qui les unit en vue d'une certaine finalité qui est de bien vivre. Le terme qui me semble-t-il dans les langues modernes traduit le mieux le sens de l'économie, c'est le terme anglais de household. C'est ce qui tient une maison ensemble. Et ce qui tient une maison ensemble, c'est la visée d'un bien ou d'une fin. Et cette fin est de bien vivre. Donc effectivement, l'économie est d'abord rapportée à un lieu de vie et renvoie plutôt à la sphère privée. Ceci est juste, oui.
Oui, l'économie sert le bien vivre qui est le but suprême de la cité chez Aristote. Et s'il s'intéresse à l'oïkos, à la famille, donc c'est en tant que communauté prépolitique, Charlotte Murger, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie ?
Oui, tout à fait, c'est exactement ça, une communauté pré-politique dont le but est d'abord d'assurer le vivre qui est la première, l'oïkos, c'est la première des communautés pré-politiques. Ensuite, il y a le village, rassemblement justement de familles. Et enfin, il y a la cité. Et avec la cité, on arrive enfin au stade politique et il s'agit plus simplement d'assurer le vivre, mais le bien vivre, la vie heureuse. Donc, il y a l'idée que ces stades pré-politiques sont à la fois indispensables pour procurer à la cité l'autarcie, l'autosuffisance, qui permettra justement de développer le bien-vivre qui, pour Aristote, requiert des vertus morales et intellectuelles. Donc c'est indispensable, mais on n'est pas encore dans le politique, et donc ça va avoir un statut qui demeure subordonné.
Mais ce sont des communautés pré-politiques sur le plan conceptuel, pas sur le plan chronologique ou historique. C'est bien ça, Charlotte Murger, parce que pour Aristote, la cité est première. L'homme est avant tout un animal politique.
Oui, tout à fait. C'est une reconstruction. Mais effectivement, la cité est première, première logiquement, et c'est elle qui permet aussi de comprendre ce qui, en quelque sorte, ces éléments constitutifs, donc que constituent les familles et le village.
Donc pas de chronologie, pas d'aspect historique dans les deux cas. Alors c'est très clair, Charlotte Murger. On peut dire, Patrick Mardella, que c'est surtout dans le livre 1 de La Politique et dans le livre 5 d'Éthica à Nicomaque que Aristote explore ces questions économiques.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est important à noter, c'est que l'économie n'est pas développée pour elle-même en elle-même, mais elle est immédiatement placée sous à la fois une éthique et sous la politique. Et ce qui me semble important dans ce qui vient d'être rappelé, c'est qu'on n'accède pas à la politique immédiatement. On est certes destiné à être des êtres politiques, c'est-à-dire que c'est par là que on arrive à l'excellence de l'humanité, mais en fait, on y accède par étape, il y a une gradation, et le premier pas ou le seuil de la politique, c'est dans l'économie qu'on la trouve. Donc l'économie, c'est pas simplement assurer les fonctions vitales, mais c'est aussi, comme je l'ai dit, un lieu de vie et un lieu où se rencontrent plusieurs personnes de statuts différents. Et évidemment, c'est pas un lieu qui est sans parole. Il y a des paroles, il y a des échanges de paroles, et donc il y a aussi l'accès à un certain nombre de notions qui vont être essentielles pour la vie politique. Ces notions sont la justice, le partage, l'échange, l'effort, le travail, puis tout un ensemble de vertus et la notion de bien. Donc en fait, on accède à la politique par un stade qui certes peut être appelé pré-politique, mais qui le prépare. On ne passe pas directement ou on n'entre pas directement dans la vie politique sans, d'ailleurs le terme de vie politique est assez discutable, mais sans être préalablement inscrit dans un lieu de vie et dans une communauté qui pour Aristote est une communauté naturelle qui est sous la perspective d'un bien vivre.
Oui, et puis il y a chez Aristote une bonne et une mauvaise économie. Il existe une forme pervertie de la recherche de richesse, c'est ce qu'il explique dans le livre 1 de la Politique. Écoutez. Ainsi y a-t-il une espèce de l'art d'acquérir qui est naturellement une partie de l'administration familiale. Elle doit tenir à la disposition de ceux qui administrent la maison ou leur donner les moyens de se procurer les biens qu'il faut mettre en réserve et qui sont indispensables à la vie et avantageux à une communauté politique ou familiale. Et il semble que ce soit de ces biens-là qu'est constituée la véritable richesse, car la quantité suffisante d'une telle propriété en vue d'une vie heureuse n'est pas illimitée. Il y a bien un terme, là, comme dans les autres arts. Aucun de ces arts, en effet, n'a d'instruments illimités en nombre ni en grandeur, et la richesse est un ensemble d'instruments utilisés par les chefs de famille et les hommes politiques. Qu'il y ait donc un art d'acquisition conforme à la nature pour les chefs de famille, comme pour les hommes politiques, et pour quelle cause ? C'est évident. Mais il y a un autre genre d'acquisition, que l'on appelle proprement, et il est juste de l'appeler ainsi, la crématistique, du fait de laquelle il semble n'y avoir nulle borne à la richesse et à la propriété. Beaucoup pensent qu'elle ne fait qu'un avec l'art dont on vient de parler du fait de leur proximité. Mais elle n'est ni identique à l'art en question, ni beaucoup éloignée de lui. De ces deux arts, l'un est naturel, l'autre n'est pas naturel, mais provient plutôt d'une certaine expérience technique. On va revenir sur la distinction établie ici par Aristote, mais peut-être d'abord, Patrick Mardella, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'Aristote désigne par la crématistique ?
La crématistique, c'est un art d'acquérir, c'est un art de l'acquisition. Nous sommes des êtres de besoins et de désirs, et pour satisfaire le besoin comme les désirs, il faut une prise ou il faut l'acquisition de ce qui vient satisfaire ce besoin et ce désir. Et donc, dans ces arts de l'acquisition, il y a tout un ensemble de techniques, disons, telles que la guerre, la chasse, la pêche, l'échange, le vol, etc. Et donc, la crématistique désigne de manière générale l'art d'acquérir qui, lorsqu'il est placé sous sa fin naturelle, c'est-à-dire sous un bien, eh bien est conforme, comme il le dit, à la nature. Par contre, il existe une autre forme de crématistique qui, elle, n'est pas conforme à la nature parce qu'elle n'est pas placée sous sa fin ou sous une limite ou sous un terme, mais qu'elle est, elle nous aspire dans l'illimité. Cette distinction me semble essentielle pour revenir sur l'émission d'hier par rapport à Platon, c'est que ici, à la différence de Platon, chez qui l'économie nous aspire immédiatement dans la démesure et le malheur, chez Aristote, il y a deux formes de l'économie, et il y a une forme de l'économie qui est bonne parce qu'elle est inscrite dans les limites de la fin naturelle d'une existence humaine. Et il y a une mauvaise économie. Et donc, chez Aristote, à la différence de Platon, il y a un intérêt pour le savoir économique, c'est-à-dire en gros pour les distinctions notionnelles qui nous permettent d'éviter de sombrer dans le malheur de la mauvaise économie.
Et dans la bonne économie, dans le bon usage de l'argent, Patrick Mardella, Aristote reconnaît l'utilité de la monnaie qui, selon lui, facilite les échanges ?
Alors oui, la bonne économie, c'est le bon usage de la richesse, de manière générale. C'est un bon usage de la richesse, c'est-à-dire de la propriété, à la différence de Platon, qui va vers un communisme. Aristote défend la propriété privée. Et la bonne économie, c'est un bon usage de la propriété, et l'argent ici est un moyen qui est introduit pour les échanges et qui sert d'intermédiaire dans les échanges en se substituant aux besoins. C'est une convention, donc elle nous renvoie immédiatement ici à la communauté politique, puisque c'est une convention qui a une dimension politique, et il s'agit dans chaque échange particulier de faire un bon usage de cette convention, c'est-à-dire de rester sous la fin naturelle de la crématistique et de ne pas inverser le rapport entre les moyens et les fins.
Et alors, qu'est-ce que cela suppose, ça ? Par exemple, pour définir un prix qui soit juste, comment est-ce que ça se passe selon Aristote ? Selon lui, il faut qu'il y ait une délibération entre le vendeur et l'acheteur ?
Oui, tout à fait. C'est la grande différence avec notre conception du marché et du prix. C'est que le prix chez Aristote n'est pas affiché à l'avance sur un marché. Le prix se définit, se co-définit, je dirais, entre les deux parties de l'échange, ce qui suppose une rencontre, un échange de paroles, une délibération et une aspiration à quelque chose qui est plus profond que son intérêt personnel, une aspiration à la justice. Donc le bon échange, c'est un échange qui est juste, ce qui veut dire que dans la délibération et l'échange de paroles, les deux parties prenantes de l'échange aient un désir plus profond que leur désir de satisfaire leur intérêt privé du moment, mais un désir de justice. Et donc ça suppose effectivement d'entendre le besoin ou le désir de l'autre, ainsi que de connaître et de comprendre son statut. Ce qui fait, et c'est là difficile à comprendre pour nous aujourd'hui dans le contexte d'une économie de marché mécanique, ce qui fait que le prix que paye tel individu pour, je sais pas moi, un litre d'huile d'olive n'est pas forcément le même que le prix que paiera un autre individu. Tout va dépendre des circonstances, de la délibération, du lieu de la rencontre, des besoins qui sont exprimés et des statuts des personnes qui se rencontrent. Mais... Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que à chaque échange, il s'agit d'éprouver l'efficacité de la convention monétaire à traduire correctement les besoins et les désirs qui se rencontrent. Et donc, à chaque fois, ce qui est en jeu, c'est d'une part le pouvoir d'achat de la monnaie qui ne se définit pas de manière abstraite et antérieure aux échanges, mais qui se définit à même les échanges et qui est remise en jeu à chaque nouvelle rencontre et à chaque nouvel échange. Et ce qui se joue aussi, effectivement, c'est l'adhésion à la convention monétaire, donc à la convention commune.
Mais pour que le prix soit juste, Patrick Mardella, il faut que les acteurs économiques soient vertueux. Comment la vertu s'acquiert-elle, selon Aristote ?
Alors, la vertu s'acquiert par éducation, habitude, multiplication des rencontres. La vertu s'accueille dans la rencontre de la pluralité des personnes qui composent la cité. Donc, elle s'éduque aussi lors de ces rencontres, et elle s'éprouve à chacune de ces rencontres. On n'est pas vertueux une fois pour toutes, mais la vertu nous définit, c'est-à-dire qu'elle montre au sens de la monstration sur la scène de l'échange, elle montre qui est la personne qui procède à l'échange. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est malhonnête? Etc., etc.
Oui, elle permet la pleine réalisation de l'être humain. Pour être un acteur économique vertueux, il faut réussir à trouver le juste milieu. Ça, c'est une idée très forte chez Aristote. Patrick Mardella, par exemple, la libéralité, qu'on pourrait peut-être traduire par la générosité, c'est un juste milieu entre l'avarice et la prodigalité.
Oui, effectivement, le juste milieu, la mesure, le juste milieu, ce sont des notions tout à fait fondamentales chez Aristote, qui est un philosophe, je dirais, de la bonne mesure et de l'homme du quotidien. C'est pas un philosophe pour les situations extrêmes. C'est un philosophe qui s'intéresse à la conduite de vie de chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il nous parle encore aujourd'hui. Il s'agit d'éviter les excès dans nos rencontres, mais aussi dans nos prises de décision. Et la juste mesure ou la bonne mesure veut dire qu'il s'agit d'inscrire ce que nous faisons, nos décisions et nos actes économiques essentiels, de les inscrire dans une limite à ne pas dépasser. Et évidemment, cette limite, nous devons la connaître par délibération, la découvrir par délibération. Et comme cette délibération est toujours partagée dans des jugements à l'occasion de rencontres, eh bien cette juste mesure, elle se découvre par ajustement des jugements, par ajustement des paroles de ceux qui se rencontrent dans un échange.
Mais pour
pas,
que c'est...
Il ne s'agit pas là d'une science infuse, pas dans le domaine pratique de l'éthique, de l'économie ou de la politique.
Patrick Mardella, je me permets de vous interrompre parce que je voudrais faire réagir Charlotte Murger sur cette question et sur cette notion de juste milieu sur laquelle vous avez travaillé.
Oui, bah je confirme ce qui vient d'être dit. Alors effectivement, la visée du juste milieu ou de la médiété, c'est la définition de la vertu éthique, ou plutôt des vertus éthiques, parce qu'il y en a plusieurs, hein, la justice, le courage, la tempérance et la libéralité dont vous parlez. Juste milieu entre un excès et un défaut, et donc il va avoir des traductions concrètes selon les situations qui appellent l'action. Et donc, en l'occurrence, à propos de la libéralité, qu'on peut traduire aussi par générosité, hein, il s'agit de savoir ce qu'on va donner à qui, dans quelle proportion. Et cette libéralité, c'est un juste milieu entre un excès dans le fait de donner, qui serait la prodigalité, ou un défaut dans le fait de donner, qui serait l'avarice. Donc on a un juste milieu entre deux vices, justement, pour cette vertu de libéralité, dans le rapport à l'argent.
Et c'est pour ça que chez Aristote, il faut qu'existe la propriété privée, contrairement à chez Platon, pour que justement cette prodigalité, cette libéralité plutôt, puisse s'exercer, Charlotte Murger.
Tout à fait. C'est un point de rupture avec Platon, puisque Aristote critique la communauté des femmes, des enfants et des biens mis en place par Platon dans la République, au motif que, sous prétexte d'améliorer l'homme moralement en enlevant en déracinant les intérêts privés et en enlevant les causes d'injustice, en fait, Platon a appauvri moralement l'homme. Et il a appauvri moralement l'homme, par exemple, en le privant de la possibilité d'être libéral, c'est-à-dire de faire des actions généreuses, de donner à ses amis, hein, et on ne peut donner que si on possède quelque chose. Donc sans propriété privée, on ne pourra pas être libéral. Et c'est une dimension très importante de l'éthique aristotélicienne, de pouvoir donner à ses amis. Il y a aussi dans les analyses de l'amitié des développements sur la bienfaisance, le fait de pouvoir faire des bienfaits aux autres et en particulier à ses amis.
Et un autre point de rupture entre Aristote et Platon, c'est le fait que Aristote estime que la réalisation des vertus dépend des conditions matérielles, là où ce n'est pas pris en compte ou pas suffisamment peut-être par Platon, Charlotte Murger.
Oui, alors en tout cas, effectivement, Aristote pose clairement comme une difficulté de son éthique le fait que, à la fois comme chez Platon, la vertu est constitutive du bonheur, donc là-dessus ils sont totalement d'accord, mais parce que Aristote définit le bonheur comme une activité, et pas seulement justement une disposition. La vertu est une disposition, mais le bonheur est une activité, c'est-à-dire la mise en œuvre, l'exercice de ses vertus. Cet exercice demande des conditions extérieures. Et dans l'éthique anicomaque, il est attentif à ces conditions extérieures. Et parmi les conditions extérieures, il y a justement la possession de richesses. Parce qu'on peut avoir la vertu de libéralité ou de générosité. On peut être bien disposé à donner son argent, mais si on n'en a pas, on ne pourra pas actualiser cette vertu. Et donc, ça empêche la réalisation du bonheur.
Allez, on continue à parler de l'économie selon Aristote dans un instant.
Aristóteles lo dijo y es cosa verdadera, que el hombre por dos cosas se mueve la primera, por el sustentamiento que la segunda era, por haber juntamiento con hembra placentera. Si lo dijera yo se me podría tachar, mas lo dice un filósofo, no se me ha de culpar. De lo que dice el sabio no debemos dudar, pues con hechos se prueba su sabio razonar. Que dice verdad el sabio claramente se prueba, hombres, aves y bestias, todo animal de cueva. Desea por natura siempre compañía nueva, y mucho más el hombre que otro ser que se mueva. Y digo más el hombre, pues otras criaturas tan solo en una época se juntan por natura. El hombre en toda época, sin seso y sin mesura, siempre que puede quiere hacer esa locura. Prefiere el fuego estar guardado entre ceniza, pues antes se consume cuanto más el latiz. El hombre cuando peca bien ve que se desliza, mas por naturaleza en el mal profundiza. Yo como soy humano y por tal pecador, sentí por las mujeres a veces gran ardor. Que probemos las cosas no siempre es lo peor, saber el bien y el mal y escoger lo mejor. Saber el bien y el mal y escoger lo mejor.
Aristote l'a dit, le chanteur espagnol Paco Ibáñez sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. L'économie selon Aristote, c'est notre sujet aujourd'hui. Deuxième volet de notre série consacrée à l'économie selon les philosophes grecs et romains. Nous sommes toujours en compagnie de la maîtresse de conférence en philosophie Charlotte Murgier et de l'économiste Patrick Mardella pour cette émission qui a été réalisée par Somaya Dabesh et Colin Gruel et mise en onde par Félix Delacour. Alors, quel est le regard d'Aristote sur le commerce extérieur? C'est l'un des aspects qu'il développe dans cette réflexion, sa réflexion sur l'économie. Patrick Mardella, pour Aristote, les citoyens ne doivent pas avoir affaire avec cette activité.
Alors Aristote est, d'abord, il faut le noter, contemporain d'un développement des échanges au loin, donc ce qu'on pourrait effectivement appeler le commerce extérieur, qui prend de plus en plus de place par rapport aux échanges locaux. Et effectivement, il en fait la critique dans la mesure où l'argent va connaître un développement de plus en plus important. On va recourir de plus en plus à la monnaie pour les échanges. Et c'est à l'occasion de ce développement des échanges monétaires que il va y avoir une perversion de l'échange, de la crématistique, c'est-à-dire que l'échange ne sera plus, il y aura des professions qui vont se développer autour de la recherche de l'argent ou du désir de l'argent et non plus simplement de la satisfaction des besoins. Donc d'une certaine manière, oui, on peut dire qu'historiquement, c'est analysé par Aristote, mais qu'historiquement, le commerce extérieur est à l'origine de cette perversion de l'échange.
Même s'il reconnaît en fait, toutefois, Aristote, Patrick Mardella, l'importance de et l'utilité de l'importation de certains biens.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Cela est juste. Mais encore une fois, l'usage de l'argent se multipliant, l'argent ayant le rôle d'équivalent dans tous les échanges, il va y avoir une perversion avec le désir d'argent qui lui-même n'a pas de limite. Mm. Il va y avoir une spécialisation de certaines professions dans le métier de l'argent. Alors on l'a chez ce type de commerçant ou de commerce, on l'a aussi avec les activités de prêt.
Et alors voilà, c'est ce que j'allais dire, j'allais y venir. C'est aussi pour cette raison, par crainte que l'argent devienne non plus un moyen, mais le but en soi, qui condamne, qu'Aristote condamne le prêt à intérêt, Patrick Mardella.
Oui, c'est ça. Le désir d'argent étant sans limite, l'argent est une technique d'acquisition. On a évoqué tout à l'heure la crématistique, c'est un mode d'acquisition. L'argent remplaçant initialement les besoins, progressivement va venir remplacer toutes les formes de la richesse ou toutes les marchandises possibles et il va être désiré pour lui-même. Or, à ce désir, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de terme, donc on sort des fins naturelles et on désire le moyen. L'argent, c'est un étalon de mesure dans les échanges et d'une certaine manière, il y a une forme de perversité à vouloir désirer cet instrument de mesure plutôt que les biens qui constituent la substance même de la richesse.
Alors, pour dénoncer la quête d'argent pour lui-même, Aristote se réfère au mythe de Midas qui a acquis le don de transformer tout ce qu'il touche en or. C'est un mythe qui a été mis en scène par Ferny Besson dans une pièce radiophonique de 1970 sur France Inter.
Divin Dionysos, ai-je dit, faites que tout ce que je toucherai dorénavant se transforme en or. Me voici donc, ô ma reine, le monarque le plus riche du monde. Voyez, je touche mon trône en bois d'olivier, il est d'or. Je caresse mes tentures en laine, de l'or. J'effleure ce pot de terre, de l'or, de l'or, de l'or. Belle reine Cyanée, de tels prodiges me donneront-ils enfin votre cœur?
Et dès que vous m'aurez touché, je deviendrai statue.
Une statue en or.
Si vous vous approchez de moi, Midas, je vous tue.
Statue en or, mon amour, ma femme chérie. Oh, mais je n'avais pas pensé à ça.
La tentation infernale t'a aveuglé.
Infortuné Midas, quelle harpie m'ont inspiré pareil souhait. J'aurais dû demander que tout se transforme en or sous mes doigts, excepté la femme que j'aime.
Excepté l'eau de la piscine, et les draps souples de ton lit, et l'herbe vivante que tu foules, et ton cheval.
Oh.
Tu es pris à ton piège, roi Midas, forcené d'ambition et de cupidité. Tu as désiré la richesse, le pouvoir. Tu as vécu en esclave de l'or. Maintenant, te voilà son prisonnier.
Oh.
Tu t'es définitivement retranché des hommes. Tu es devenu un monstre effrayant.
Oh. Tais-toi, Cyanée.
Tu vas mourir seule.
Oh.
Pour toi, dorénavant, il n'y aura au monde que de l'or. Plus de pain, plus de dattes, plus de vin, plus d'eau. De l'or, rien que de l'or.
Mais qu'ai-je fait?
Voilà Midas qui va demander à Dionysos de lui retirer son don, ce que le dieu accepte en lui recommandant de plonger dans les eaux du Pactole, d'où l'expression « toucher le Pactole ». C'est un mythe, celui de Midas, qui permet à Aristote d'évoquer les dangers de la richesse illimitée, Charlotte Murgier.
Oui, alors effectivement, c'est tout à fait, et Aristote pointe à plusieurs reprises cette perversion, comme ça a été dit, de la richesse illimitée qui transforme le moyen en fin, et l'argent étant par définition sans limite, quand on veut de l'argent, on en veut toujours plus. Mais par ailleurs, il me semble aussi que dans le passage de la politique où Aristote cite ce mythe, c'est aussi à l'intérieur d'une réflexion sur la monnaie et le fait que finalement la monnaie elle sert à échanger des biens, mais elle est conventionnelle, et si elle se dévalue, on peut mourir de faim en possédant énormément d'argent, un peu comme Midas meurt de faim, c'est tout transformé en or. Donc je pense qu'il y a aussi plusieurs dimensions finalement de ce mythe dans la manière dont Aristote le lit.
Et pour Aristote, Patrick Mardella, c'est le rôle de la politique de contenir l'économie dans ses limites domestiques.
Je crois que chez Aristote, c'est surtout, d'abord et avant tout, le rôle de l'éthique. L'économie chez Aristote trouve son sens finalement à travers l'éthique. Et d'accord pour le dire de la politique, mais si la politique est conçue comme une espèce d'éthique commune. Donc la politique elle-même, d'une certaine manière, ne se défait pas de l'éthique. On n'est pas chez Machiavel. La politique permet, doit permettre en fait aux citoyens et à l'intérieur des familles de pouvoir être et devenir et exercer ses vertus.
Et c'est aussi pour cela qu'Aristote propose de faire de l'économie une science, avec cette idée que la connaissance que l'on a du fonctionnement de l'économie doit permettre d'éviter ces dérives qu'on a évoquées, Patrick Mardella.
Alors, oui, mais si on garde en tête que l'économie n'est pas publique ou l'économie n'est pas politique. Bien entendu, la cité a des dépenses et a des rentrées et fait des échanges et finance des activités, mais il n'y a pas unification de l'ensemble des actes économiques par le marché, comme chez nous, par exemple, aujourd'hui dans le monde. Donc, l'économie reste domestique avec des échanges, et c'est sous la fin du bien-vivre que tous les actes économiques doivent être placés.
Alors, on a parlé de l'oïkos, qui est ce lieu de toutes les inégalités entre hommes libres et esclaves, entre hommes et femmes, et ce sont des inégalités qui sont considérées comme naturelles par Aristote, Charlotte Murgier.
Tout à fait. Effectivement, l'oïkos, donc la famille, la maisonnée, est constituée de trois relations inégales. Donc, maître-esclave, mari et femme, et puis père-enfant. Donc, ça implique aussi des relations d'autorité, c'est-à-dire que l'être qui est supérieur par nature, le maître sur l'esclave, le mari sur la femme et le père sur leurs enfants, a un pouvoir d'autorité. Et cette inégalité naturelle permet à Aristote de penser une forme de complémentarité, puisque dans le cadre de ces trois relations d'autorité, comme toute communauté, la communauté par exemple du maître et de l'esclave ou du mari et de la femme, a pour but un avantage commun. C'est dans l'idée que chacun des partenaires de cette relation inégale, et encore une fois l'inégalité est par nature, sinon elle n'est pas légitime, va quand même trouver un avantage ou un bénéfice dans cette relation.
Mais Aristote peut penser l'égalité, mais seulement dehors de la sphère économique. C'est là que l'égalité devient possible sous la forme de l'amitié, par exemple, entre un maître et un esclave, Charlotte Murgier.
Oui, alors l'égalité, effectivement, elle se trouve en dehors de la sphère de l'oïkos, elle se trouve à l'intérieur de la cité, puisque là, les citoyens sont égaux, moralement et par nature égaux. C'est là que se développent les relations d'amitié et les relations morales entre des partenaires égaux. Il peut y avoir, c'est vrai, une forme d'amitié, par exemple, entre mari et femme, éventuellement entre maître et esclave, à condition néanmoins, dit Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, de considérer l'esclave non pas en tant qu'esclave, mais en tant qu'homme. Parce que si on considère l'esclave en tant qu'esclave, on va le considérer comme ce qu'il est, et sa fonction c'est d'être un instrument au service du maître.
Un instrument animé, ce sont les termes d'Aristote. Ce que l'on comprend, Patrick Mardella, c'est que chez lui, le travail n'est pas pensé autrement que sous la forme de l'esclavage.
Alors, c'est un sujet qui, pour nous aujourd'hui, est assez difficile à traiter, d'autant que on a une histoire de l'esclavage et il y a des formes d'esclavage qui se sont développées avec la traite d'esclaves. Et tout ça, en fait, surcharge notre lecture de ce texte d'Aristote et notre compréhension de ce passage. Je pense que pour rendre un peu justice de ce texte, il faut comprendre qu'Aristote ici traite effectivement du travail. Alors la question de savoir s'il ne conçoit le travail que sous la forme de l'esclave est une chose que l'on peut défendre très certainement, mais ce qui me semble plus important de retenir, c'est le fait que sous la relation du maître et de l'esclave, il aborde la question du travail et de la servitude au travail. Et finalement, il nous dit quelque chose de peut-être plus profond que simplement les conditions sociales qui sont mises en rapport et cette dialectique qu'étudiera plus tard Hegel dans un texte très célèbre. Ce qu'il étudie, en fait, c'est le fait que tout travailleur, quel qu'il soit, et d'une certaine manière le maître lui aussi travaille, même si ça s'inscrit pas sous la forme du statut de l'esclave, mais tout travailleur est en quelque sorte sous un commandement. Et il y a une relation de servitude que nous vivons aujourd'hui en tant que salarié d'un patron, en tant que domestique d'un maître ou d'un employé dans une entreprise. Il y a une condition de servitude au travail. Je pense que c'est comme ça qu'on peut peut lire sereinement ce texte d'Aristote nous parle du travail et il y a quelque chose à en tirer pour nous aujourd'hui. C'est pas la question de l'exploitation, bien évidemment il peut y avoir de l'exploitation de notre travail et il y a de la domination, mais d'abord et avant tout, tout travailleur est dans une forme de servitude, servitude à un maître, à un commandement, et même je dirais d'une certaine manière, celui qui travaille pour lui-même est sous une servitude ou sous une forme de servitude, c'est un commandement de sa vie. Mmh. Nous ne pouvons pas échapper au travail. C'est ce que nous dit d'une certaine manière Aristote dans ce texte.
Alors la pensée économique d'Aristote a inspiré de nombreux philosophes. Parmi eux, il faut citer Thomas d'Aquin, prêtre et penseur scolastique du nom de cette philosophie, qui a atteint son apogée au XIIIe siècle. Qu'est-ce que Thomas d'Aquin retient de la pensée économique d'Aristote, Patrick Mardella?
On pourrait dire qu'il retient à peu près tout et qu'il va effectivement fixer les termes dans lesquels, pendant plusieurs siècles, jusqu'au développement du mercantilisme, disons au XVIIe siècle, au cours de ces siècles, Saint Thomas, reprenant la pensée économique d'Aristote dans un cadre qui est évidemment le cadre chrétien, eh bien va fixer les termes des débats économiques pour tous ces siècles, hein, autour de la question du prix juste, autour de la question du prêt à intérêt, de la condamnation de l'intérêt, autour de l'échange,
l'usure qui est considérée comme un péché par l'Église,
aussi définition de la richesse, il y a une bonne et une mauvaise richesse. Donc on peut dire qu'à peu près tout ce que Aristote a pu dire ou écrire de l'économie se retrouve intégré dans la pensée chrétienne de saint Thomas et que ça va fixer les termes des débats économiques pour quelques siècles jusqu'à la naissance de l'école mercantiliste.
Sauf peut-être sur le travail qui est considéré par Thomas d'Aquin comme une activité noble à laquelle, par laquelle l'homme se réalise et se rapproche de Dieu. Est-ce qu'on n'est pas loin de l'idée de servitude développée par Aristote, Patrick Mardella?
Alors, oui, effectivement, il y a autour de la notion de travail, il y a une valorisation chrétienne du travail, ceci est incontestable, hein. Ora et labora, donc la parole et le travail, enfin la prière et le travail. Donc effectivement, il y a à propos du travail des nuances qui sont apportées, mais je ne pense pas que, encore une fois, le fait que ça nous rapproche de Dieu nous libère d'une servitude. Cette servitude ou cette forme de contrainte qui s'exerce sur nous et qui s'exerce notamment à travers le fait qu'il n'y a pas de travail en dehors du temps et que la durée vécue du travail est une forme de servitude et le temps de travail est toujours compté. Donc je ne pense pas que
pas d'antagonisme entre leurs deux pensées.
De cette notion.
Aristote, qui a également inspiré les économistes dits classiques comme Adam Smith ou comme Marx, pour lequel il a exercé une influence majeure. Écoutez cet extrait du livre 1, chapitre 1er du Capital. Les deux particularités de la forme équivalent deviennent encore plus faciles à saisir si nous remontons au grand penseur qui a analysé le premier la forme-valeur. Nous avons nommé Aristote. D'abord, Aristote exprime clairement que la forme argent de la marchandise n'est que l'aspect développé de la forme-valeur simple, c'est-à-dire de l'expression de la valeur d'une marchandise dans une autre marchandise quelconque. Car il dit « 5 lits égale une maison » ne diffère pas de « 5 lits égale tant et tant d'argent ». L'échange, dit-il encore, ne peut avoir lieu sans l'égalité, ni l'égalité sans la commensurabilité. Mais ici, il hésite et renonce à l'analyse de la forme-valeur. Il est, ajoute-t-il, impossible en vérité que des choses si dissemblables soient commensurables entre elles, c'est-à-dire de qualité égale. L'affirmation de leur égalité ne peut être que contraire à la nature des choses. On y a seulement recours pour le besoin pratique. Ainsi, Aristote nous dit lui-même où son analyse vient échouer, contre l'insuffisance de son concept de valeur. Quel est le « je ne sais quoi » d'égal, c'est-à-dire la substance commune, que représente la maison pour le lit dans l'expression de la valeur de ce dernier? Pareille chose, dit Aristote, ne peut en vérité exister. Pourquoi?
la maison représente vis-à-vis du lit quelque chose d'égal, en tant qu'elle représente ce qu'il y a de réellement égal dans tous les deux. Quoi donc ? Le travail humain. Patrick Mardella, que vous inspire ce texte extrait donc du livre 1 du Capital, publié en 1867?
C'est un texte très très célèbre, c'est aussi un très beau texte dans lequel Marx rend hommage à Aristote, qui a compris que l'échange se fait à égalité, il n'y a pas un échange inégal ici, et que l'égalité arithmétique suppose la commensurabilité, et cette commensurabilité suppose une mesure. Dans commensurabilité, on entend le mot de mesure. Ça suppose une mesure commune. Cette mesure commune, chez Aristote, en fait, c'est le besoin. Le besoin et l'argent et cette convention qui se met à la place du besoin et qui est censée traduire les besoins et les mettre en équivalence. Alors évidemment, Marx ici reproche par ailleurs à Aristote d'avoir buté sur son temps et sur ce dont on a parlé précédemment, à savoir la relation du maître et esclave, et de n'avoir pas vu que au fond de la commensurabilité, sous l'argent, je dirais, d'une certaine manière, il y a le travail. Il y a le travail, la valeur travail, et c'est le travail qui donne la valeur. On pourrait dire d'une certaine manière que Marx le voit parce que le capitalisme a mis le travail en plein centre, en plein cœur de nos relations dans nos sociétés. Alors que le travail était caché à l'intérieur de la maison ou dans des lieux de travail qu'on appelait ergasteria chez les Grecs. Donc, il reproche à Aristote de n'avoir pas vu ce qui, de toute manière, était invisible socialement, d'une certaine manière.
Mais ce qui rapproche Marx d'Aristote, c'est que Marx plaide pour une économie subordonnée à l'éthique, selon la conception aristotélicienne, Charlotte Murgier.
Oui, en tout cas, effectivement, pour Aristote, il faut que ce soit l'éthique qui dirige l'économie, puisque finalement l'éthique c'est ce qui va nous donner le moyen d'user, et l'économie c'est aussi ça concerne l'usage des biens, hein. Et l'idée c'est que effectivement créer de la richesse pour créer de la richesse n'a aucun sens. On crée de la richesse pour en user, hein, et pour se donner les instruments qui permettent de vivre et de bien vivre. Donc de ce point de vue-là, l'éthique en tant que c'est le savoir de l'usage est en position de supériorité par rapport à l'économie qui lui reste subordonnée.
Donc on retrouve effectivement cette critique d'un argent qui devient une fin en soi. Et il y a aussi les économistes de l'école autrichienne qui se revendiquent d'Aristote au 19e siècle, Karl Menger notamment. Et cela, Patrick Mardella, alors que, c'est ce que vous nous disiez quand on a préparé cette émission, la notion de valeur-utilité chez Menger n'a que peu à voir avec la théorie aristotélicienne de la valeur.
Oui, alors je dirais en préambule à ma réponse que en fait toute la période moderne de l'économie politique est tout de même en rupture par rapport à Aristote. On change complètement de schéma interprétatif et surtout on bascule d'une économie qui est vue du point de vue, comme vient de le rappeler Charlotte Murgier, du point de vue de l'usage et donc que l'on pourrait situer du côté de la consommation, on va passer à une économie qui est totalement soumise à la question de la production. Nous voyons les choses à travers la production. Et d'où la promotion aussi du travail et de la valeur travail. Et en fait, donc, il y a cette rupture, mais finalement, il y a toujours eu des échos de la pensée d'Aristote qui sont demeurés audibles ou demeurés vifs dans la pensée de ses auteurs. Et il est vrai que on a crédité Menger d'avoir retrouvé un certain Aristote. Mais comme toujours avec les très grands auteurs, il y a plusieurs manières de les récupérer et pas forcément les manières les plus authentiques ou les plus profondes. Donc il y a une forme d'aristotélisme effectivement dans la pensée économique autrichienne, mais la question plus importante, ce serait de savoir si cet aristotélisme, quel est son degré de profondeur. Et là-dessus, je pense que on peut dire que malgré tout, la pensée économique autrichienne reste une pensée de la promotion de la crématistique, et de ce point de vue-là, elle est totalement étrangère à Aristote.
Oui, et c'est pour ça que il y a des économistes aussi différents que Marx et Hayek qui peuvent se revendiquer d'Aristote avec plus ou moins d'honnêteté peut-être. Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Pour conclure, Charlotte Murgier, en quoi la pensée économique d'Aristote est-elle encore pertinente aujourd'hui, selon vous?
Bon, alors effectivement, il y a des analyses, celles de la... par exemple de la monnaie comme instrument de commensurabilité qui reste pertinente, mais par ailleurs je pense que pour moi sa plus grande pertinence est justement dans le rappel que l'économie doit être une science subordonnée à l'éthique, hein, et qu'on ne doit pas oublier justement, si on produit ou si on cherche à acquérir du bien, des biens, c'est pour en faire usage. Et de ce point de vue-là, peut-être se rappeler que l'économie doit être réglée par autre chose qu'elle-même, et comme le dit Aristote, l'éthique, c'est-à-dire une réflexion sur les fins de l'être humain et ce qu'il veut développer en lui.
Patrick Mardella.
Oui, je crois que aujourd'hui surtout on a une critique du capitalisme qui n'est en fait qu'une critique de la crématistique. Et il y a un désir de sortir du tout marché, de la production ou de la croissance. Les questions écologiques aujourd'hui, la question environnementale nous rattrape, et les demandes ou la recherche de sobriété, d'un retour au local. Du prix juste, etc. Tout cela, d'une certaine manière, ça peut être rapporté à Aristote, même si c'est pas forcément un aristotélisme tout à fait conscient, mais pourrait trouver dans l'aristotélisme des fondements pour se renforcer dans la critique de notre société économique où la promotion du profit, de la richesse domine et écrase tout, et finalement nous écrase et nous empêche effectivement, comme vient de le dire ma collègue Charlotte Murgier, de pouvoir être vertueux, ou en tout cas de se replacer sous une éthique qui nous permette d'exceller pour ce que l'on est, c'est-à-dire des êtres humains.
Merci beaucoup Patrick Mardella et Charlotte Murgier d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Charlotte Murgier, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en philosophie ancienne à l'université Paris-1-Panthéon-Sorbonne. Patrick Mardella, professeur de sciences économiques à Sciences Po Lille. Merci également aux techniciens de France Bleu Lille qui ont assuré ce duplex. We go traveling down this highway line. See you. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. On se quitte avec Palomino, extrait du dernier album du duo suédois First Aid Kit. Demain, comment Sénèque peut-il être à la fois l'homme le plus riche de son temps et le plus critique à l'égard de l'argent? Nous poserons la question à Sandrine Alexandre et Juliette Dross. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.